Pour ouvrir ce 18-20, premier journal de la soirée, présenté par Estelle Schmitt. Bonsoir Estelle.
Bonsoir.
L'essentiel de ce jeudi 31 octobre commence en Seine-Saint-Denis.
Justice, sécurité, services publics, les mesures du gouvernement pour ce département en difficulté. 23 propositions dévoilées par le Premier ministre, mais un plan insuffisant selon les élus et habitants. PSA et Fiat Chrysler à un mariage à 50-50 pour former un géant mondial de l'automobile. Mais qu'en pensent les salariés de PSA en France? Nous sommes allés leur poser la question à Sochaux. Sans surprise, un nouveau dirigeant pour le groupe djihadiste État islamique. De nouvelles manifestations pro-démocratie à Hong Kong, masques d'Halloween sur le visage et des affrontements avec les forces de l'ordre. Nous y serons. Nous irons également au tournoi de tennis de Paris-Bercy. Jérémy Chardy éliminé, Joe Wilfried Tsonga en train de jouer. Quand un jeu vidéo crispe tout un pays, le dernier opus de Call of Duty n'est pas le bienvenu en Russie, explication dans ce journal. Et puis une nouvelle perturbation à bord de l'ouest du pays. Demain, nous dira Jean-Pierre Hameau, Météo France, après ce journal.
À 18h15, un jour dans le monde. Normalement, c'était jour de Brexit aujourd'hui. Et puis non, dans 3 mois peut-être. La nouvelle date, en tout cas, que nous avons tous en tête, c'est le 12 décembre prochain. Élection législative très gros risque pour Johnson, comme pour les autres. D'ailleurs, bref, il est temps de refaire un point d'étape et c'est ce qu'on fera dans un instant. Le bruit du monde ce soir est en Birmanie. Nous parlons cinéma. Et puis 19h20, le téléphone sonne. On parle d'intelligence artificielle. Ce soir, est-ce que vous êtes prêt à un système de reconnaissance faciale pour ouvrir un site administratif par exemple? Vous savez que ça commence à venir dans les aéroports, à la gare du Nord. L'idée, c'est de vous faciliter la vie, de fluidifier les démarches et les files d'attente. La CNIL est particulièrement attentive et vous, 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc le département le plus pauvre de France métropolitaine.
23 mesures pour la Seine-Saint-Denis dévoilées tout à l'heure par le Premier ministre Édouard Philippe. Volonté du gouvernement montrer qu'il agit pour ce département qui accumule difficultés et carences. Renfort d'officiers de police judiciaire, 150 postes d'ici 2021, 12 magistrats supplémentaires, 35 greffiers sont créés. Parmi les dispositifs également, une prime de 10 000 euros pour les agents de service public de l'État qui resteront 5 ans en Seine-Saint-Denis. Prime versée en une fois à l'issue des 5 ans. Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
Alors c'est qu'un début de solution, Édouard Philippe le reconnaît lui-même.
Oui, des solutions hors normes, mais il y a encore du flou. Édouard Philippe reconnaît qu'on ne sait pas encore qui aura droit, par exemple, à cette prime de fidélisation.
Alors il y aura sans doute beaucoup de choses à discuter et à calibrer. Qui y a droit? Dans quelles conditions? Comment? Et bien entendu, le débat va naître. J'ai pas peur de ce débat. Il est indispensable.
Les agents hospitaliers, a priori, seraient exclus du dispositif. On ne connaît pas encore la rétroactivité pour les profs ou les policiers déjà en fonction. De même, sur les 20 millions alloués à l'éducation, Stéphane Troussel, le patron PS du département, trouve que le compte n'y est pas.
Oui, mais vous savez, le département de la Seine-Saint-Denis, il vient de livrer 4 collèges qui ont coûté chacun 25 millions. Donc cette année, le département a investi 100 millions pour les collèges du département. Donc vous imaginez que 20 millions en 10 ans, et a priori seulement pour les communes, c'est pas à la hauteur de ce à quoi nous sommes confrontés.
La patronne du département, Valérie Pécresse, fait un peu la moue et elle fait aussi monter les enchères.
Quelle est la différence entre un enseignant de Sarcelles, de Garges-lès-Gonesse, d'Évry-Courcouronne ou un enseignant de la Courneuve? C'est la même difficulté. C'est les mêmes difficultés sociales, c'est aussi les mêmes violences, parfois scolaires, c'est aussi le même enjeu. Parce que c'est une jeunesse qui est là aussi à 40% au chômage, qui a besoin de réussir dans la société française. C'est un enjeu républicain partout.
Valérie Pécresse, la patronne de la région Île-de-France. Alors en résumé, au-delà des critiques un peu politiciennes, c'est bien, mais on demande à voir.
Merci Laurence Perron. Et parmi les mesures dont on a le moins parlé, 5 inspecteurs en charge du contrôle des logements indignes seront recrutés. Et à propos d'habitat indigne, il y a un an, 5 novembre 2018, 2 immeubles délabrés s'effondraient à Marseille, faisant 8 morts. Un troisième bâtiment était abattu par les pompiers rue d'Aubagne. Mais qu'en est-il justement un an après en France? Y a-t-il du mieux pour le logement? C'est le sujet cette semaine du podcast original de la rédaction Action d'Inter, poursuite présentée par Bruno Duvic. Il est disponible dès à présent sur vos plateformes.
La suite du journal Estelle, c'est positif mais vigilant, les salariés de PSA en France.
Oui, après l'officialisation de la fusion entre le constructeur français qui les emploie aujourd'hui et l'italo-américain Fiat Chrysler, un mariage à peu près 9 millions de véhicules et la naissance à venir du 4e constructeur automobile au monde. Le siège sera aux Pays-Bas. Carlos Tavares, actuel patron de PSA, deviendra directeur général de ce nouveau groupe. Réaction mitigée donc recueillie à la sortie de l'usine PSA de Sochaux par Christophe Beck.
On pense que ça va donner du travail aux jeunes, ça. Voilà, c'est bien.
Bah écoutez, ça va créer de l'emploi dans la généralité et ça va faire un groupe le 4e constructeur mondial. Pour moi, c'est bénéfique à l'entreprise, ça la pérennise dans le temps.
Je pense que ça peut apporter du bon quand même. Pour l'ensemble des groupes maintenant.
C'est bien pour PSA aux États-Unis.
Ah, c'est une bonne chose, hein. On fera du travail.
Pour Sochaux.
Sochaux, puis pour toutes les autres usines.
Celle dans de boulot, ça va?
Ça dépend, c'est une bonne nouvelle pour Peugeot, c'est très bien, mais après avoir comment ça va faire par la suite en fait.
Créer des emplois, ce serait bien, pour les jeunes de maintenant.
Donc pas d'inquiétude?
Non, non.
Interrogation pour l'instant, on sait même pas qu'est-ce qui nous attend pour la suite quoi.
Ouais.
On est tous dans le doute, dans la peur de perdre notre emploi.
Tant qu'ils n'arrêtent pas l'usine, ça nous va. Il faut du boulot, il en faut ici.
Propos évoqués par Christophe Beck de France Bleu, Belfort, Montbéliard et non loin de Sochaux. À Belfort, justement, la création d'une plateforme logistique et surtout plus d'un millier de postes d'ici 2021, annoncé tout à l'heure par le maire, les Républicains Damien Mello, alors que General Electric a annoncé récemment un plan social qui devrait toucher plusieurs centaines d'emplois dans son site de turbines à gaz. 8 TGV Atlantique sur 10 prévus jusqu'à dimanche, estimation de trafic à la SNCF, alors que 200 agents du Technicentre de Châtillon dans les Hauts-de-Seine sont toujours en grève, rejoint d'ailleurs un temps par certains salariés, deux autres sites de maintenance de TGV en banlieue parisienne. Mais le travail a repris en attendant le résultat des derniers pourparlers avec la direction. Toujours à propos de la SNCF, le gouvernement devrait faire des propositions sur le futur régime de retraite des cheminots d'ici le 22 novembre. Selon la CFDT Cheminots, à l'issue d'une réunion avec le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebari, qui annonce par ailleurs pour décembre la reprise du train des primeurs. Vous savez, ce train qui relie Perpignan à l'Île-de-France. Mais ce train ne sera plus directement exploité par la SNCF par une autre entreprise, Novatrans. Et puis il n'arrivera plus non plus directement au marché de Rungis, mais sur une plateforme multimodale à quelques kilomètres de là.
Il est 18h07 sur France Inter. Le groupe État islamique confirme dans un communiqué la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi.
Le dirigeant tué lors d'un raid militaire américain dans le nord de la Syrie. L'organisation djihadiste annonce évidemment aussi la nomination d'un successeur, Abou Ibrahim al-Hashimi, et il appelle à venger la mort de son chef dans un message audio cette fois. Donald Trump, lui, on s'en souvient, avait annoncé la mort de Baghdadi et raconté l'opération américaine. Le président américain qui dénonce ce soir dans un tweet, comme souvent, la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine, dit-il, après un vote de la Chambre des représentants qui approuve la poursuite de la procédure d'impeachment contre lui. Les élus majoritairement démocrates ont donné leur accord, 232 voix contre 196. On y revient dans le détail dans le journal de 19h d'Inter. Des masques d'Halloween à l'effigie de Carrie Lam, la chef de l'exécutif local. Histoire aussi de braver l'interdiction de manifester le visage découvert à Hong Kong. Nouvelle manifestation des pro-démocraties aujourd'hui. Et comme bien souvent, des échauffourées entre policiers et opposants. Climat peut-être encore plus tendu ce soir. Reportage Florence de Changy.
Lan Kwai Fong sur l'île de Hong Kong, c'est le quartier des bars, des boîtes et des clubs. Les week-ends, la foule afflue pour faire la fête et déborde sur les trottoirs de ces ruelles en pente du quartier de Central. Mais ce soir, la police a décidé d'interrompre les festivités. Locke, un musicien de 28 ans, fait partie de ceux qui crient leur colère au cordon de policiers.
Aujourd'hui, c'est Halloween, n'est-ce pas? Donc, beaucoup de gens sur Internet se sont mis d'accord pour faire un événement où tous les manifestants se donnent rendez-vous ici pour boire un verre, dépenser de l'argent, faire marcher les bars et les clubs. Mais maintenant, vous voyez ces policiers, ils empêchent notre événement. C'est toujours comme ça à Hong Kong, ils font ce qu'ils veulent.
La nuit s'annonce encore plus longue qu'à l'habitude à Lan Kwai Fong, où la police a sorti les gaz lacrymogènes et procédé à des arrestations. Mais les manifestants se sont déjà donné rendez-vous samedi pour une nouvelle série d'événements, alors que la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, répète, comme un disque rayé, que la seule solution, c'est que la violence cesse et que pour cela, elle compte sur la police. Hong Kong, Florence de Changy, France Inter.
Lui promet des élections anticipées après le vote d'une nouvelle loi électorale soumise au Parlement la semaine prochaine. Normalement, le président irakien Bahram Saleh, le mouvement de contestation lui ne faiblit pas et le Premier ministre accepte de démissionner, ce sont ses mots. Si les blocs au Parlement se mettent d'accord sur un remplaçant, rien n'est donc fait. Nous vous en parlions hier, ici même, du renoncement du Chili à organiser la conférence internationale sur le climat, la COP25, en raison de la crise sociale qui secoue le pays. Eh bien, le président chilien Sébastien Piñera assure ce soir que l'Espagne propose d'accueillir cette COP25 à Madrid, du 2 au 13 décembre, les dates prévues.
Allez, retour en France avec des horodateurs sur des ronds-points.
Oui, ça se passe à Nevers, dans la Nièvre. Opération symbolique décidée par la mairie pour aider à redynamiser le centre-ville. Parce qu'à Nevers, comme dans bien d'autres communes de cette taille, les commerces ferment les uns après les autres et sont les grands centres commerciaux des périphéries qui séduisent. Alors le maire de Nevers, Denis Turiot, est passé à l'action.
Nous avons
mis en place un certain nombre de mesures dès 2014 pour essayer de relancer le commerce de centre-ville. Et parmi ces mesures, nous avons pris la décision pour le 1er janvier 2018 de mettre l'intégralité du stationnement de surface en zone gratuite complètement, avec des zones bleues vers les commerces à peu près 2 heures en moyenne, et sinon des zones blanches pour ceux qui sont amenés à moins bouger.
Pourquoi mettre ces horodateurs sur les ronds-points?
Pour faire une petite piqûre de rappel, puisqu'on en a vendu quelques-uns, et puis ceux qui nous restent, voilà, rappeler qu'à Nevers, on ne paye plus, c'est du pouvoir d'achat, c'est plusieurs dizaines d'euros pour ceux qui viennent chaque jour dans le centre-ville, mais je renonce avec mon équipe municipale à peu près 700 000 euros de recettes, ce qui n'est pas rien par an. C'est un choix, et si ça marche, effectivement, je considère que c'est un investissement pour aider la relance du commerce, qui est une de nos priorités. Donc, dans ce qu'on me dit, effectivement, il y a des commerces qui voient des gens qui ne voyaient pas avant, et parfois même plus de gens. Donc, voilà, il est clair que si ça ne marche pas, ça n'a pas vocation à demeurer.
Et le maire de Nevers, Denis Thuriot, interrogé par Philippe Randé. Il avait créé l'événement au Masters 1000 de tennis de Paris en battant le numéro 4 mondial Daniil Medvedev. Le Français, Jérémy Chardy, stoppé net en 8e de finale, en 3-7 tout à l'heure par le Chilien Christian Garin, et ce, malgré 3 balles de match, Fanny Le Chevestrier.
Oui, c'est vrai qu'on y a cru jusqu'au bout à la victoire de Jérémy Chardy en fin tout début d'après-midi. Il s'était procuré 3 balles de match, vous l'avez dit, effectivement, dans le dernier jeu décisif, dans le jeu décisif du 3e set. Et puis finalement, eh bien, Christian Garin a réussi à sauver ces 3 balles de match et à s'imposer en un peu plus de 2h20 de jeu. Résultat, eh bien, Jérémy Chardy est éliminé. Il ne jouera pas les quarts de finale. Et on a une incertitude également sur Joe Wilfried Tsonga qui est actuellement sur le court opposé à l'allemand Jan Lennart Struff. Tsonga qui a perdu facilement malheureusement le premier set 6-2. Il s'accroche dans le deuxième set. Il sert pour mener 4-2. Mais attention, Struff est bien dans sa partie. Il va être dur à aller chercher. On aura encore un troisième Français en lice ce soir. C'est Gaël Monfils opposé au Moldave Radu Albot.
Fanny Le Chevestrier en direct du Masters 1000 de tennis de Paris-Bercy. La mort d'une figure de France Inter, la journaliste Françoise Gaujour est morte à 68 ans. Première femme à avoir présenté une revue de presse, c'était dans les années 80. France Inter, puis la télé, avant retour à la radio sur RMC. Françoise Gaujour était également photographe. Et puis c'est l'un des jeux vidéo les plus vendus au monde, Call of Duty, le dernier opus édité par la société américaine Activision, sorti en fin de semaine dernière. Eh bien, il fait l'objet d'appels au boycott et même de retrait de la vente en Russie. Appels sur les réseaux sociaux et même dans les médias d'État. La raison est simple, Julie Pietri, ce jeu est accusé de salir l'image de l'armée russe.
Cette guerre n'a rien de civil.
L'action se passe dans un pays imaginaire, l'Urzikistan, au Moyen-Orient, un territoire en guerre avec sur place organisations terroristes et forces militaires étrangères. Le but était de faire le plus authentique possible, racontent les créateurs du jeu. Dans Call of Duty, les soldats exécutent des civils, bombardent des armes chimiques, touchent les populations. L'Urzikistan ressemble étrangement à la Syrie, où Moscou, avec ses bombardiers, a soutenu Bachar al-Assad dès 2015.
La limite est où on veut qu'elle soit.
Olivier Moko, enseignant à Sciences Po, spécialiste des jeux vidéo.
La Russie a toujours été le grand méchant dans la série des Call of Duty et même dans le jeu vidéo jusque dans les années 90. Hein. La Russie dans le jeu, en tout cas, se reprend comme une caution du terrorisme, de la guerre. C'est eux qui les manipulent et qui s'en jouent. Ça interroge, ça véhicule un message politique fort. Donc à partir de là, oui, ça peut créer du débat. D'ailleurs, c'est pas une mauvaise chose en soi si le jeu vidéo peut créer du débat sur des sujets politiques.
Les héroïnes, elles, ressemblent étrangement aux combattantes kurdes.
Ceux qui envahissent mon pays n'ont aucun respect pour la vie.
Référence claire, encore une fois, à l'actualité.
Julie Pietri, au compte un jeu vidéo crée du débat politique.
Allez, Estelle Schmitt pour le journal. Merci beaucoup, Estelle. On se retrouve tout à l'heure dans Un jour dans le monde.